clé secrète de l'univers. Dominique Desmichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Si vous nous suivez depuis quelque temps, vous savez que nous sommes en train d'essayer de réécrire tout modestement l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à nos jours. Nous avons vu le Big Bang, la naissance des premières particules, puis des étoiles, puis de notre système solaire, puis de la Terre, puis la première apparition de la vie. La dernière fois, nous parlions des algues, de la photosynthèse, presque des chloroplastes, puis cette petite bête dont vous nous parliez la dernière fois, Michel, cette Dicksonia foliacée là, qui une espèce de, vous corrigerez, une espèce de pré ou de protoplante en quelque sorte. Et là, nous arrivions à cette période de vers les 500 millions d'années. Voilà. Donc, Michel, vous êtes notre guide et je vous redonne tout de suite la parole.
Eh bien, bonjour à tous. Nous étions arrivés effectivement à l'ère multicellulaire et la première forme que nous ayons, qui date de 580 ou 560 millions d'années, c'était une simple crêpe, je dirais, d'une quinzaine de centimètres, voyez-vous, qui était posée au fond des mers. C'est la première fois que des cellules se sont arrangées pour vivre ensemble et former un être. Et ce qui est plus étonnant, un être capable de reproduction. Oui. Alors, je vais maintenant vous dire quelles sont les trois qualités qui ont permis ce passage de la cellule unique, oui, se promenant toute seule, à l'être multicellulaire. Alors, il y a trois qualités qui sont nécessaires et qu'on retrouve chez tous les êtres multicellulaires. Trois. La première, c'est la différenciation cellulaire. Et oui, si vous pensez à votre propre corps, vous avez des cellules de peau, des cellules de foie, des cellules de cœur, des neurones. Toutes ces cellules se ressemblent beaucoup, elles ont toutes le même génome. Ça, j'insiste beaucoup, c'est important, elles ont toutes le même génome. Et pourtant, elles prennent des formes différentes et surtout, elles ont des fonctions différentes. La cellule de cœur a une fonction musculaire, la cellule de foie a une fonction chimique. Vous voyez, les fonctions peuvent être très différentes. Et ce sont des cellules qu'on appelle différenciées. Et ce qui est étonnant, c'est qu'elles ont le même génome. Alors en fait, on a compris maintenant comment se faisait la différenciation cellulaire. C'est simplement qu'il y a des parties du génome qui s'expriment dans une cellule et pas dans une autre. Vous avez un exemple intéressant de cela. Regardez une chenille qui devient un papillon. Les cellules des chenilles, de la chenille, ont le même génome que les cellules du papillon. Et pourquoi ça donne un papillon dans un cas, une chenille dans l'autre? Tout simplement parce que quand l'animal se trouve à l'état larvaire, il y a toute une partie de son génome qui s'exprime, c'est la partie chenille, oui, et toute la partie correspondant au papillon est inhibée. Alors, inhibée par qui, par quoi? Elle est inhibée par des gènes. Il y a des gènes qu'on appelle régulateurs, et ces gènes décident au départ que ce sera une chenille et inhibent toute la partie du génome qui concerne le papillon. Et plus tard, lorsque cette chenille va faire une chrysalide, eh bien, un par un, tous les gènes qui étaient éteints vont être réveillés. Et au contraire, les gènes qui concernaient purement la chenille vont être inhibés. Vous voyez comment le même génome peut donner une chenille ou peut donner un papillon. Eh bien, c'est la même chose dans votre corps. Vous avez des cellules qui possèdent toutes le même génome et qui pourtant sont différentes du fait que certains gènes s'inhibent ou certains gènes s'expriment.
Je donne un petit exemple aussi qui est très d'actualité, là, puisque au moment où nous enregistrons, là, nous venons de fêter, je crois, les 25 ans de la première brebis Dolly, je crois. Et là, peut-être vous vous rappelez, on a pris une petite cellule appartenant à une brebis, on a pris que le noyau, on l'a réinjecté dans une autre cellule, et on a réussi à partir de là à refaire un clone. Voilà, et ça c'est important en médecine. Alors je reprends un petit peu ma casquette de médecin pour dire que actuellement de plus en plus se développe une médecine régénérative qui consiste en effet à prendre des cellules et à l'aide de processus chimiques, en particulier enzymatiques, à la rendre totalement potentiellement capable de se différencier en toutes ces cellules, par exemple dans le cordon ombilical, juste après la naissance de l'enfant. Mais actuellement, il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour tenter de prendre des cellules classiques, par exemple des cellules de la peau, parce que c'est facile à attraper, à les transformer en cellules totipotentes, c'est-à-dire capables de devenir n'importe quelle cellule, et par exemple d'en injecter dans le cœur à un endroit où le muscle cardiaque a été abîmé, par exemple à l'occasion d'un infarctus. Et on a vu, mais pour l'instant c'est quand même un petit peu expérimental, on a vu ces cellules se transformer en cellules myocardiques, c'est-à-dire au fond régénérer une partie du cœur. Donc on voit bien que ce que vous parlez, ce que vous évoquez là, Michel, du côté de cette différenciation cellulaire, à la fois c'est tout à fait fondamental, et en même temps ça a une actualité clinique et potentiellement thérapeutique, parce qu'on pourrait peut-être, dans quelques dizaines, centaines, peut-être beaucoup plus d'années, imaginez refabriquer, je ne sais pas trop quoi, par exemple, des bourgeons dentaires et pouvoir avoir des dents neuves à chaque fois qu'il y en a une qui est abîmée. Alors, c'est un petit peu anecdotique, quoique bien précieux, mais aussi éventuellement pour tout à fait autre chose, c'est-à-dire régénérer un cœur, régénérer un muscle, régénérer un foie, régénérer un intestin. Bon, je suis encore un peu bavard, Michel. Allez, je vous redonne la parole. Ça, c'était, vous nous parliez de ces trois propriétés émergentes de l'être multicellulaire, mais je vous ai coupé après que vous ayez nommé la première.
La première, donc, c'est la différenciation cellulaire. On ne l'a pas dit, mais chez l'homme, l'être peut-être le plus sophistiqué qui existe, il y a 200 et quelques types de cellules différentes, 200. Alors que chez le tout premier être que nous connaissons, qui date de 500-600 millions d'années, il n'y avait que deux types de cellules. Deuxième caractéristique, là c'est un peu compliqué, on ne va pas y passer trop de temps, mais c'est que les cellules se structurent entre elles. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple une cellule de l'embryon qui se divise en deux, une des deux cellules, par exemple, va donner une cellule d'estomac, l'autre va donner une cellule, un neurone, par exemple. Eh bien, il faut que le neurone aille se placer au bon endroit et la cellule d'estomac au bon endroit. Oui. Donc, vous voyez que c'est assez, c'est pas évident d'imaginer comment les cellules comme ceci se forment et se placent là où il faut. De la même façon, si vous avez des cellules qui forment votre main, par exemple, eh bien, il faut que les cellules s'arrêtent de se diviser à un certain stade. Sinon, votre main deviendrait gigantesque, plus grosse que votre corps. Donc, il faut qu'elles sachent quand elles se divisent. Quand elles se divisent, il faut qu'elles sachent où elles sont. Il faut qu'elles sachent aussi quand elles s'arrêtent. Alors, il n'y a pas un programme qui dit tout cela. Tout cela n'est pas écrit dans un grand livre dont elles suivraient les instructions. En fait, c'est un jeu entre elles, complexe, à base de signaux chimiques. Il y a des échanges de signaux chimiques entre les cellules. Et il y a aussi un fait qui joue énormément sur les cellules, c'est la pression. Par exemple, si vous avez le cœur qui grossit, à un certain stade, la croissance va s'arrêter parce qu'il y a une pression qui vient des autres organes et cette pression est interprétée par la cellule. Alors évidemment, la cellule n'a pas de cerveau, elle n'interprète pas, mais cette pression fait qu'elle ne se divise plus. Elle comprend, entre guillemets, hein, qu'elle ne doit plus se diviser. Donc, c'est essentiellement par l'environnement dans lequel se trouve chaque cellule et par les signaux qu'elle reçoit, chimiques ou génétiques aussi, il y a des gènes régulateurs qui favorisent cela. Donc, des signaux chimiques, des signaux génétiques et puis des signaux de pression qui sont très importants aussi. Et c'est grâce à cela que toutes les cellules se placent au bon endroit. Alors, il y a un travail qui a valu le prix Nobel à un monsieur qui s'appelle Sydney Brenner, qui est un travail extraordinaire. On connaît un petit ver qui s'appelle Caernohabditis elegans, un nom un petit peu compliqué. C'est un tout petit ver qui fait moins d'un millimètre. Et ce petit ver est très étudié, d'abord parce qu'il est transparent, donc on voit bien ses cellules, et puis deuxièmement, il se reproduit très vite. Et ce petit ver possède très exactement, en tout et pour tout, 959 cellules. Pas 958, pas 960, 959 cellules. Eh bien, Sydney Brenner, ce prix Nobel, a passé des années devant le microscope à suivre individuellement les 959 cellules pour voir, à partir de l'embryon du ver, pour voir où elles allaient se placer et comment. Et on possède donc une espèce de diagramme qui montre comment cet être complet, qui est un ver, hein, il a un intestin, il a des muscles, il a tout ce qu'il faut, comment il se constitue à partir de l'embryon et comment chaque cellule va trouver sa place. C'est cela que j'appelle se structurer. Les cellules savent se structurer. D'où vient ce savoir? Ce savoir vient de la nuit des temps, en tout cas de cette époque de 600 millions d'années, et c'est l'évolution darwinienne qui a permis, petit progrès par petit progrès, de partir d'un être où il n'y avait que deux sortes de cellules, pour arriver maintenant à des êtres comme nous qui possèdent 200 types de cellules et avec des cellules qui arrivent à trouver le bon endroit où elles doivent se trouver à un moment donné.
Alors donc, Michel, il nous reste une petite minute encore, oui. Juste. Peut-être c'est important que vous le redisiez, ce troisième élément dans ses propriétés émergentes, différenciation cellulaire, structuration entre elles de ces cellules. Et puis le troisième, c'est...
Eh bien, c'est la reproduction. Parce que c'est bien beau de fabriquer, disons, une machine à vapeur, une locomotive, par exemple. Seulement, quand vous dites à cette locomotive, voilà, maintenant, tu es terminé, maintenant, il faut que tu fabriques une autre locomotive à vapeur, eh bien, on se demande comment ça peut se produire. Et le secret de cela, on va peut-être rester là-dessus si on arrive à la fin de notre quart d'heure, le secret de cela, c'est de partir d'une cellule unique. Le secret, c'est que la nouvelle machine à vapeur va se fabriquer à partir d'une seule petite cellule qui possède toute l'information dans son génome. Et c'est cette petite cellule, en se divisant en deux, puis les deux en quatre, puis les quatre en huit, c'est cette petite cellule avec le même génome à chaque fois, qui va progressivement, ajout par ajout, cellule par cellule, bâtir l'être complet. Voilà, c'est ça le secret. Alors il y a trois secrets, hein. C'est la différenciation cellulaire, la structuration des cellules l'une par rapport à l'autre, et la reproduction à partir d'un œuf unique, la cellule germinale, la cellule, l'ovocyte, la toute première cellule.
Ok, ben en effet, on va s'en tenir là avec ces petites bêtes qui ont en effet, comme vous le disiez déjà, un intestin, peut-être une mâchoire, peut-être un petit squelette, peut-être éventuellement déjà quelques yeux avec cette tête unicellulaire, puis pluricellulaire, puis ces colonies de cellules, en effet, qui inaugurent au fond toute la vie. Michel, un très grand merci et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir à tous.